très bonne question pour vous. Quels sont les ponts à traverser sur le chemin d'un véritable réveil? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse transformatrice aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a de vraiment bonnes questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Je crois que Dieu va faire une belle œuvre dans nos cœurs si on s'applique à mettre en pratique ce qu'il va nous enseigner en réponse aux questions que voici. Est-ce que Dieu nous pardonne quand on s'humilie devant lui? Qu'est-ce qui arrive quand on n'applique pas son cœur à chercher Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait quand on crie à lui sincèrement? Que faut-il faire pour connaître des réveils et des victoires éclatantes? Quels sont les ponts à traverser sur le chemin d'un réveil? Est-ce que les personnes qui sont vraiment capables d'enseigner la Bible sont rares de nos jours? Est-ce que Dieu se révèle à tous ceux qui veulent vraiment le connaître? Quelle est la cause de nos problèmes sociaux? Restez des nôtres, le grand livre de Dieu va nous instruire d'une manière vraiment spéciale aujourd'hui. On va nous apprendre ce qu'il faut faire pour vivre un vrai réveil dans nos vies, dans nos églises et même dans notre nation. Écoutons bien ce qu'on va apprendre par la bouche du pasteur Régent Joly. Et demandons à Dieu de nous transformer par sa parole. Prions. Oui, Seigneur, on veut que tu nous transformes par ta parole. Que, après l'avoir entendue, on ne soit plus les mêmes. Qu'on soit encore plus bouillant pour toi, plus zélé pour répandre ton évangile. Touche nos cœurs aujourd'hui, mon Dieu. On t'aime de tout notre cœur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu le royaume d'Israël se diviser en deux. 10 tribus formèrent le royaume du Nord, qui conserva le nom d'Israël, et les tribus de Juda et de Benjamin formèrent le royaume du Sud, qui sera appelé Juda. Cette division s'est produite à cause du péché d'un homme, le péché de Salomon, qui avait pris de nombreuses épouses qui l'ont entraîné dans l'idolâtrie. Lorsque son fils, Roboam, monta sur le trône à son tour, il manqua de sagesse et refusa de réduire les taxes. Les 10 tribus se révoltèrent et suivirent Jéroboam, qui devint leur roi, et qui leur fabriqua 2 veaux d'or pour adorer. Roboam se détourna aussi de la loi de Dieu après quelques années, et Dieu permit au roi d'Égypte de monter contre Jérusalem. Il pilla l'or du temple et de la maison du roi. Le butin comprenait les boucliers d'or fabriqués par Salomon pour le temple. Nous avons vu que si nous nous détournons de Dieu, il peut retirer sa main protectrice. Notre péché ne demeure jamais statique, il progresse. Nous nous repentons ou nous devenons pires. Lorsque nous nous sommes quittés à la dernière émission, nous avions vu que Roboam a remplacé les boucliers d'or par des boucliers d'airain. Débutons notre lecture, chers amis. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 11. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Ce fut une expérience humiliante pour Roboam, qui avait été élevé dans le luxe et la richesse. Il se rend compte que la gloire est éphémère lorsqu'on se détourne de Dieu. Verset 12. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Dieu pardonne lorsque nous nous humilions devant lui. Notez la grâce de Dieu. Aussitôt que Roboam s'humilie, Dieu détourne sa colère de lui et du peuple. Verset 13 à 16. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'ammonite. Il fit le mal, parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans le livre de Shemaéja, le prophète, et d'Ido, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Et Abija, son fils, régna à sa place. Cherchez-vous Dieu de tout votre cœur. Si nous n'appliquons pas notre cœur à chercher Dieu, nous ne pourrons que faire le mal. Seule la grâce de Dieu peut nous enseigner à marcher dans ses voies. C'est une grâce qui nous est faite de pouvoir marcher avec Dieu, marcher humblement avec Dieu, en étant à l'écoute de son enseignement. Après la mort de Roboam, Abija, son fils, monta sur le trône. Abija ne fut pas un bon roi, car il continua dans le péché de son père. Un roi, chapitre 15, verset 3. Cependant, sa conduite fut exemplaire à une occasion où il honora Dieu. Les versets 3 à 6. Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Tsemaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abija se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable ?» Mais Jéroboam, fils de Nebat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Cette révolte eut lieu à cause de la stupidité de Roboam, son père. Verset 7. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui, et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. En fait, Roboam était un jeune, craintif et insensé. Abija veut former un seul royaume, comme autrefois. Mais Jéroboam s'est proclamé roi du royaume du Nord, et cela ne l'intéresse pas. Versets 13 et 14. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Notre Dieu est bienveillant. Les hommes de Juda crièrent à Dieu et notaient sa réponse bienveillante. Versets 15 à 17. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et, au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abija et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Chers amis, ce fut une victoire éclatante. Poursuivons et regardons plus loin, versets 19 et 20. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Bethel et les villes de son ressort, Jeshkana et les villes de son ressort, et Éphron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abija, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Dieu jugea Jéroboam pour avoir divisé la nation et avoir détourné les tribus de lui. Versets 21 et 22. Mais Abija devint puissant, il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Ido. Abija ne fut pas un grand roi, mais après lui, Dieu accordera un réveil lors du règne de son fils Asa. Il y eut 5 réveils au cours de l'histoire du royaume de Juda. Ce livre traite des réveils. Nous y découvrirons comment en arriver à un réveil. Verset 23. Abija se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Le premier des réveils aura lieu sous Asa. Poursuivons notre lecture, chapitre 14, versets 1 à 3. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Cet homme est exceptionnel. Il cherchait Dieu. Versets 4 et 5. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et leur royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il fut un homme de paix, oui, un artisan de paix, mais l'Éthiopie voulut lui faire la guerre. Versets 8 et 9. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée 1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Maresha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maresha. En plus d'être un homme de paix, Asa était un homme de prière. Le petit aperçu que nous voyons de la vie privée du roi est exemplaire. Versets 10 et 11. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Voilà une vraie prière, sans flatterie, et qui vient droit au but. Asa dit exactement ce qu'il pense. Il était un homme de prière. Si la nation a connu un réveil, c'est parce que le roi était un homme de Dieu. Verset 14. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis, de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Lorsque son peuple se tourne vers lui, Dieu accorde des victoires éclatantes. Sur le chemin du réveil, nous devons traverser 3 ponts. Voici le premier. Chapitre 15, versets 1 à 3. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. » Nous avons besoin d'enseignants de la parole de Dieu. Le fait que la Bible ne soit presque plus enseignée dans nos églises est tragique. Ce que nous avons besoin, ce n'est plus des pasteurs, mais des personnes capables de vraiment enseigner la Bible. Des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui la vivent. Ces personnes sont beaucoup plus rares. Ils en avaient besoin au temps d'Asa, car aucun sacrificateur n'enseignait le peuple. Celui-ci, malgré les nombreux lévites et les nombreux sacrificateurs, était sans la loi et sans la parole de Dieu. C'est cela le véritable besoin de chacun d'entre nous, d'être exposé à l'enseignement des saintes Écritures, chers amis. Verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, il se révélera à vous. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela, mes amis. Si vous êtes sérieux avec Dieu, il est avec vous. De nombreuses personnes affirment, « J'ai lu la Bible et j'ai prié, mais cela ne m'a rien donné. » Mes amis, qui pensez-vous tromper? Dieu n'est pas un menteur. Il a dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Écoutez ce texte, tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. « Demandez, et l'on vous donnera. » Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mes amis, si vous voulez vraiment connaître Dieu, il se révélera à vous. Versets 5 à 7 de 2 Chroniques chapitre 15. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Asa se tourne vers Dieu, car les paroles du prophète l'encouragent. Le prophète explique la source des problèmes sociaux du pays. Je pense que le message du prophète s'adresse aussi à nous. En examinant la Bible, je me demande si la cause de nos problèmes sociaux n'est pas la même que celle de Juda. Nos politiciens ne pensent pas avoir besoin de Dieu, alors que c'est le contraire. Nous avons tous besoin de Dieu. Versets 8 et 9. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Dieu a toujours un reste qui lui demeure fidèle. Versets 10 à 12. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Notez que le peuple traverse le premier pont vers un réveil. Les habitants de Juda n'ont pas cherché de raccourci. Ils en sont arrivés à une connaissance de Dieu. Ils se tournent vers Dieu de tout leur cœur. À chaque réveil, tiré du livre des Chroniques, il eut un retour à la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu un réveil spirituel sans un retour à la parole de Dieu. Je vais vous faire un énoncé dogmatique. Il n'y a jamais eu un réveil spirituel sans un retour à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas remplacer la Bible par quoi que ce soit. Si nous examinons l'histoire des réveils religieux qui ont eu lieu en Angleterre et en Amérique, nous remarquerons qu'ils débutèrent tous par un retour à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une connaissance superficielle de la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire plus que d'employer le vocabulaire biblique à toutes les sauces. Un réveil ne dépend pas d'une activité, d'un rituel religieux ou d'une méthode, chers amis. Il dépend d'une connaissance approfondie et d'un amour à la véritable parole de Dieu, la seule, l'unique. Dans notre société contemporaine, Dieu utilise toutes sortes de mouvements et de nombreux évangélistes. Cependant, certains m'inquiètent, car la parole de Dieu n'est pas au centre de toutes leurs activités. Mes amis, un véritable réveil doit être fondé sur une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Je prie pour que nous soyons témoins d'un réveil au Québec. Le premier pont à traverser est une excellente connaissance de la parole de Dieu. Elle ne se fait pas rare, elle est même très populaire. Chacun d'entre vous a une portion des Saintes Écritures, soit un livre de la Bible, un évangile, un Nouveau Testament, ou même une Bible chez vous, entière. Elle est là à la maison. Mais où est-elle? Allez la chercher là où elle se trouve et commencez à la lire, à approfondir votre connaissance, non seulement intellectuelle, mais laissez-vous toucher par cette parole vivante et efficace, pénétrant dans votre être intérieur, dans votre âme, pour que Dieu y opère son miracle, son œuvre. Maintenant, un réveil commence dans le cœur des individus. Êtes-vous disposé à prendre le temps d'approfondir la parole de Dieu? C'est ainsi que vous en viendrez à connaître Dieu. Votre foi est proportionnelle à votre connaissance de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit l'auteur de l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Nous ne pouvons pas faire confiance à une personne que nous ne connaissons pas. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme,
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est intéressant de savoir que Dieu recherche une intimité avec chacun d'entre nous. Ce verset, ces textes, nous précisent que Dieu est prêt à se révéler, à se faire connaître à chacun d'entre nous. La condition, c'est que nous l'aimions. Voilà le point de départ pour chacun d'entre nous. Un cœur réceptif, un cœur prêt à recevoir. Dieu est prêt à investir dans notre vie. Si nous l'aimons, si nous l'acceptons tel qu'il est prêt à se révéler, à se faire connaître, selon les saintes Écritures, par son Esprit, il est prêt à le verser en nous, à le déposer en nous, afin que nous puissions saisir et comprendre les profondeurs de Dieu. Qui peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Or, il est prêt à investir en nous cette connaissance qui va bouleverser, transformer notre vie. Je poursuis la lecture, toujours d'un Corinthiens chapitre 2, cette fois les versets 13 à 16. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà une vie bien remplie, chers amis. Si vous acceptez ce que Dieu vous offre à l'instant, vous acceptez le fait qu'il peut vous enseigner, qu'il peut vous diriger, vous dicter dans votre vie. Il est prêt à remplir votre âme par son Esprit, par sa présence, vos pensées par les pensées de Christ. Alors tout votre être va être animé et rempli par la présence de Dieu, par son Esprit, par la pensée de Christ. Un Dieu vivant qui est prêt à se faire connaître à chacun d'entre nous. Condition, que vous l'aimiez, que vous le cherchiez de tout votre cœur. Rappelez-vous ces promesses. Si vous me cherchez, vous trouverez. Si vous frappez à ma porte, je vous accueillerai. Dieu l'a promis, chers amis. À vous d'agir en conséquence. Allez vers ce grand Dieu, qui est prêt à se faire connaître, qui est prêt à investir dans votre vie. Une condition, c'est que vous lui permettiez de le faire, que vous l'invitiez vous aussi. Faites-lui une place dans votre être, dans votre vie présente, et lui, il vous fera une place pour votre éternité, dans son royaume, dans sa demeure, communément appelée le ciel parmi les hommes. C'est ce que nous appelons la demeure de Dieu, le ciel. Mais c'est plus que cela. C'est le fait de pouvoir bénéficier de sa présence tous les jours. Dieu se révèle à l'homme. Que faisons-nous de ces révélations? Le fait qui illumine les yeux de notre cœur afin de pouvoir palper sa présence de façon spirituelle par la foi. Pour l'instant, les textes nous disent que nous l'aimons sans l'avoir vu, et un jour, nous l'aimerons par la vue. Mais désistant, nourrissons notre foi, alimentons notre confiance par les saintes Écritures, en les lisant, en les méditant, en les étudiant. Ce livre qui nous parle de Dieu, qui est la Bible. Voilà le but également, le pourquoi de ces émissions, afin que vous puissiez entrer en contact avec ce grand Dieu par l'écoute des émissions à travers la Bible. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Chroniques, chapitre 15, verset 13, à chapitre 17, verset 9.
Oh, merci beaucoup, Réjean. Wow! On pourrait vivre un vrai réveil ici au Québec. Personnellement, je pense qu'on est à veille d'en vivre. Et voici qu'aujourd'hui, Dieu nous donne des outils pour y arriver. On a bien vu en écoutant Régent qu'un réveil spirituel n'a jamais lieu sans un retour à la parole de Dieu. Un réveil ne dépend pas d'une activité, d'un rituel religieux ou d'une méthode. Il dépend d'une connaissance approfondie et d'un amour de la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe quand on écoute jour après jour les divers enseignements de la parole de Dieu à l'émission à travers la Bible. En autant qu'on ne s'en tienne pas simplement à écouter sans mettre en pratique ce qu'on apprend. Dans le premier chapitre de son épître, Jacques nous dit ceci au verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et il ajoute au verset 25 que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mes amis, Dieu nous parle par sa parole, par la Bible. Il nous apprend à le connaître, à connaître sa volonté à notre égard. Il nous dit ce qu'il faut faire pour être heureux, pour être toujours joyeux. Dans le psaume 119, au verset 105, le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu nous éclaire par sa parole. Il nous fait voir ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît dans notre comportement. Il nous fait connaître les bénédictions qu'il a en réserve pour ceux qui l'aiment et qui mettent en pratique sa parole. Pour ma part, chaque jour, je reconnais mon besoin de plonger non seulement mes regards, mais mon cœur entier dans sa parole. Bien sûr, il y a des moments où je me sens fatigué, où je manque de concentration, mais je me suis fait une discipline de lire la parole de Dieu, même dans ces moments-là. Et je suis certaine que Dieu fait son œuvre dans mon cœur, même si je ne le vois pas dans ce moment-là. Je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais me retrouver dans une situation où j'aurai besoin de ce que j'aurai appris. Au verset 11 du psaume 119, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment est-ce qu'on peut serrer la parole de Dieu dans notre cœur si on ne la connaît pas? Et comment est-ce qu'on peut la connaître si on ne la lit pas, si on ne la médite pas régulièrement? Jésus a dit « Celui qui m'aime, garde ma parole. » Mon ami, est-ce que tu aimes Jésus? Ce Jésus merveilleux qui t'a aimé le premier, qui est descendu du ciel, qui est venu mourir sur une croix pour payer la dette de tes péchés. Oui, Jésus t'a aimé le premier, et en ce moment, il veut s'inviter chez toi. Il veut t'offrir le salut éternel. Il connaît ta douleur, il sait comment tu te sens en ce moment. Il sait que tu es peut-être même en train de mettre un frein pour pas écouter ce qu'il veut te dire. Lâche prise avec ce frein. Écoute ce que Jésus te dit. Il s'invite chez toi. Il s'invite à te laver, à te pardonner. Il veut te donner la vie éternelle. Écoute le message de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G-6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.